Bonjour. Alors, on m'a dit aujourd'hui qu'il faisait pas beau, mais tout ça, c'est dans la tête. Et quand on parle de tête, quoi de mieux que recevoir Albert Moukébert pour son livre Neuromania?
Bonjour.
Bonjour, monsieur Moukébert. Alors, à l'heure où l'on parle beaucoup d'éducation à l'esprit critique, à l'heure où on essaye d'éduquer par rapport aux fake news, par rapport aux tours que nous fait notre cerveau, est-ce que notre cerveau ne serait pas notre pire ennemi à cet esprit critique?
Je ne sais pas si on peut juste dire que c'est notre cerveau. Je dirais que c'est une sorte de rencontre entre notre cerveau et une organisation contextuelle. C'est un peu l'idée que j'ai voulu développer dans Neuromania. Après, votre cerveau joue des tours, où on a pas mal parlé de ces biais cognitifs de l'esprit critique, où j'ai essayé d'expliquer que les biais sont contextuels. J'ai senti qu'il faudrait vraiment introduire au grand public une notion qui est peut-être pas très connue, qui s'appelle la cognition incarnée. Qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas le fruit de notre cerveau. On est le fruit d'un cerveau dans un corps, dans un contexte.
Dans un environnement.
Dans un environnement, dans un contexte, dans une culture, dans un groupe social, etc. Et je pense que l'esprit critique, c'est souvent penser contre son cerveau, comme disait Gaston Bachelard, et ça veut dire penser avec le cerveau des autres. Et j'ai voulu un peu remettre cette notion d'interrelation au cœur de notre fonctionnement.
Alors, vous avez fait un livre, donc c'est un livre de vulgarisation, hein, pour les auditeurs, ce n'est pas du tout aride à lire. Est-ce que parler de thèmes qui sont aussi complexes que vous abordez, est-ce que ça n'éveille pas une très grande difficulté en fait, de ne pas tomber dans le technique et de rester dans la vulgarisation, tout en essayant de ne pas être trop simpliste?
Si, mais je pense que c'est ce que j'aime dans ce métier. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est vraiment. Je passe beaucoup de temps à essayer de réfléchir à comment est-ce que je peux prendre une idée complexe et la rendre plus accessible sans sacrifier sa complexité. J'aime bien dire faire complexe mais pas compliqué, simple mais pas simpliste. Et je pense que c'est vraiment la partie que je préfère de loin dans le travail de vulgarisation. C'est-à-dire comment trouver une manière de garder ce qui est intéressant sans que ça soit trop technique, de manière à ce qu'on écarte. Pour moi, la science est supposée être pour tout le monde. Et je me bats, c'est une sorte de combat personnel, on va dire, contre la coupure d'une personne, de gens qui savent et d'autres qui ne peuvent pas savoir.
Donc vous êtes contre l'hermétisme et cette
Exactement. Chose-là. Je pense qu'au contraire, je pense que ce qui nous a éloignés d'une bonne compréhension de notre fonctionnement, c'est justement créer cet hermétisme, pas seulement entre les scientifiques et le grand public, mais aussi parfois entre les disciplines elles-mêmes.
Ce que disait Raymond Poincaré, qui se disait esprit universel, c'est qu'avec moi, après moi, il n'y aura que des géologues qui ne toucheront jamais à la physique, qui ne toucheront jamais à d'autres matières, et pour le coup, une sorte de cloisonnement, en fait, ça, vous n'êtes pas du tout.
Pas du tout, et surtout quand on voit les grandes découvertes scientifiques, elles ont rarement été faites de manière cloisonnée. Peut-être que parfois des aboutissements arrivent comme ça, mais si on pense aux grands cerveaux du XXe siècle qui ont fait le plus de découvertes, que ce soit Einstein ou von Neumann,
Ou Wegener.
Ou Wegener, ça a toujours été des personnes qui avaient soit une vue d'ensemble des différentes matières qui touchent à leur sujet d'étude, soit qui étaient entourées de personnes qui sont très différentes. On se souvient, ou pour ceux qui connaissent, de la conférence par exemple de Saclay, où on avait des physiciens de différentes branches de la physique qui sont mis ensemble pour pouvoir avancer.
La photographie est très célèbre, on a une sorte de best-of de tout ce qui est scientifique.
La photographie est presque dingue pour ceux qui ne connaissent pas, je recommande de la regarder. Et je pense qu'on a besoin de la même chose quand on veut s'intéresser à l'humain. On a besoin de neuroscientifiques qui discutent avec des psychologues, qui discutent avec des sociologues, qui discutent avec des ingénieurs intelligence artificielle, avec des philosophes, avec des anthropologues, sinon on ne va pas s'en sortir.
Des gens curieux, quoi.
Des gens curieux et qui s'y connaissent sur leur corps d'études aussi, mais qui discutent entre eux. Et je pense qu'en France, on est énormément désavantagés par cette barrière qui existe entre les matières scientifiques et les matières littéraires. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué de faire des recherches en sciences cognitives, je sais pas, sur le libre arbitre, si on n'est pas autant calé en statistique qu'en biologie, qu'en philosophie, qu'en anthropologie.
Qu'en sociologie, tous ces
éléments-là.
Qu'en
sociologie, sinon.
Alors, la science n'est pas immuable, c'est pas un bloc qui ne bouge jamais. Vous expliquez bien au début de votre livre qu'il y a eu des tâtonnements, des erreurs, hein, je pense notamment au passage que vous faites sur la phrénologie, qui est la science qu'on retrouve. C'était l'exemple, mais c'est le même que j'avais en tête dans Le Chien des Baskerville, où on explique que la forme du crâne peut déterminer le fonctionnement intellectuel et voire même la prédestination, parce qu'on a les tableaux de Théodore Géricault, hein, qui peint l'avarice, donc le crime marqué sur le visage. On a eu des discours d'hommes politiques, hein, comme Nicolas Sarkozy, qui expliquait que, grosso modo, un meurtrier, ça pouvait se trouver dans l'ADN. Enfin, donc, on a des retours de ces sciences-là. Est-ce qu'on arrive... la science évolue. Est-ce que la science arrive maintenant à comprendre comment fonctionne le système cognitif de notre cerveau, où il y a encore plein de territoires inexplorés? On est sur la plage et il y a encore la jungle derrière.
Absolument. La science, aujourd'hui, on n'arrive pas trop à expliquer encore grand-chose de ce qu'on appelle des fonctions exécutives supérieures. Déjà, on a fait beaucoup de progrès.
Alors, c'est quoi les fonctions exécutives supérieures?
C'est-à-dire la mémoire, la cognition, les émotions, le libre-arbitre, l'émergence de la conscience, etc., etc. Et c'est un peu ça aussi que je voulais expliquer dans le livre. C'est-à-dire, on a aujourd'hui une vision de la science qui sait. C'est comme si l'âge des grandes découvertes de la science, de Saclay, de la physique du XXe siècle, les Einstein, les von Neumann, etc., c'est fini, et qu'aujourd'hui on fait que de l'application. Et je voulais montrer que non, en sciences cognitives, on vient de mettre le pied sur un nouveau continent qui reste à découvrir, et donc l'aventure est encore devant nous. On n'a pas encore notre conférence de Saclay, j'espère qu'on va y arriver. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas découvert des choses, on a découvert énormément de choses sur les 100 dernières années, les synapses, les neurones, les neurotransmetteurs, mais aussi certaines fonctions du cerveau, comme tout ce qui est attrait avec le cortex moteur, comment est-ce qu'on bouge notre corps, un peu sur les maladies neurodégénératives. On fait des progrès assez importants
La myopathie et les autres maladies dégénératives. Entre les années 70-80, on commence à se pencher dessus sur la myopathie Duchenne, et aujourd'hui, on sait que la science a fait d'énormes
progrès, mais sur plein d'autres choses qui entraient, on va dire, au grand public. Souvent, on va instrumentaliser les neurosciences alors que les connaissances ne sont pas encore du tout là, sur les émotions, sur la raison, sur est-ce qu'il y a une opposition entre émotion et raison, sur la douleur. Aujourd'hui encore, on ne sait pas comment mesurer la douleur. Aujourd'hui, pour mesurer la douleur, on demande à quelqu'un combien est-ce que tu as mal. On n'a pas vraiment de dolorimètre, donc la science fonctionne sur cette base d'objectivation, et on a très peu de méthodes d'objectivation du ressenti phénoménologique subjectif de l'individu. Et donc, pour moi, c'était aussi une sorte de réenchantement de la science avec ce livre, de dire en fait non, les scientifiques, c'est avant tout des fous furieux et pas du tout les gens hyper carrés, hyper empiriques
et fermés,
les caricatures à montrer.
Comme on a l'image de Lord Kelvin, 1er janvier 1900, qui dit bon, il y a plus que deux, on a fini.
Oui. Alors que pas du tout.
Non, pas du tout.
On vient de commencer.
Il avait dit qu'il y avait deux petits problèmes, et petits problèmes, c'est la physique quantique, et voilà. Donc c'est quand même pas rien. Et, alors, on parle de votre cerveau, le cerveau qui nous joue des tours, le cerveau qui nous manipule. On sait qu'aujourd'hui, les fake news sont aujourd'hui un véritable danger.
Ouais.
Le San Francisco Inquirer avait établi une étude pendant la campagne présidentielle. Donald Trump émet, donc sans les relais, émet 0,3 fake news par jour, ce qui est totalement... Sans compter celles qu'il relaie, qui lui ont filé par Elon Musk. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette vague permanente de fake news, je pense aux réseaux sociaux, puis aussi repris aujourd'hui dans les médias plus ou moins mainstream, même plus mainstream de plus en plus, est-ce que c'est pas effectivement un danger pour le fonctionnement de notre cerveau? Les problèmes qui parlent de biais cognitifs, par exemple.
Je pense que c'est plutôt un danger pour le fonctionnement de nos sociétés, plus que pour notre cerveau. Un cerveau individuel, les fake news ont toujours existé. On a retrouvé des fake news du temps de Cléopâtre. C'est juste qu'à l'époque, on n'était pas en train de fonctionner de manière démocratique, où la majorité décide à partir de votes, ce qui est un progrès indéniable aussi, mais aujourd'hui qui risque d'être noyauté effectivement par des intérêts qui sont souvent privés, donc pas publics, donc pas soumis à la délibération de tous, de qui voit quelle nouvelle. Et on sait en psychologie, c'est même pas des neurosciences, en psychologie depuis longtemps par exemple, on connaît les effets de répétition sur la véracité d'une information, et donc quand Elon Musk rachète Twitter et décide que il peut bidouiller l'algorithme comme il veut sans aucune conséquence, et que vous allez voir, que vous suiviez Elon Musk ou pas, que vous suiviez des comptes de politique américaine ou pas, vous allez avoir des nouvelles comme quoi les démocrates sont un danger incroyable.
Que Kamala Harris mange des enfants.
Que Kamala Harris mange des enfants, que des immigrés haïtiens sont en train de manger des chiens et des chats,
chats,
etc., etc., sans aucun contrôle. Et effectivement, c'est ça qui m'inquiète. Ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est que quand on observe quelque chose, quand on est dans des systèmes complexes, comme les sociétés humaines, il y a ce qu'on appelle des niveaux explicatifs. Il faut trouver quel est le bon niveau explicatif pour quel sujet, pour chaque sujet qu'on veut étudier. Donc, si on s'intéresse aux fake news, évidemment, les biais cognitifs jouent un rôle, mais le vrai niveau explicatif, c'est le niveau du marché de l'information. Qui propage quoi et comment et avec quelles conséquences. Cette notion de niveau explicatif peut être très intuitive si on prend un autre sujet. Par exemple, imaginez, là on est dehors, on voit des voitures, imaginez qu'il y a un accident de la route devant nous, j'espère pas. Imaginez qu'on essaye d'expliquer cet accident avec les atomes de la carrosserie des voitures. Évidemment que les atomes sont impliqués, mais évidemment que c'est pas le bon niveau explicatif.
Surtout qu'ils ne vont pas se toucher.
Oui.
passe à autre chose.
C'est autre chose, mais c'est pas le bon niveau explicatif. Un bien meilleur niveau explicatif serait l'état de la chaussée. Est-ce que le conducteur ou la conductrice était en état d'inébriété, etc. C'est un peu la même chose pour les fake news. On se focalise sur l'individu, on surresponsabilise l'individu et ça permet de déresponsabiliser des facteurs plus systémiques.
Même les facteurs de manipulation sont anciens parce qu'on sait que le livre Propagande d'Edward Bernays a été publié en 1920, ce qui donne le vertige quand on le lit aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir écrit ça en 1920, même si c'est pas un manipulateur, le personnage est ambigu. On va pas rentrer, on n'est pas là pour parler de Bernays, mais ça fait très longtemps qu'on sait qu'on est une sorte de pâte à modeler à l'intérieur de la tête et que la société est une gigantesque pâte à modeler depuis Hobbes, et qu'on est tout à fait capable de faire ce que l'on veut. Est-ce que pour vous, là, vous avez votre livre. Vous projetez, vous, plus tard, dans 10, 20, 30 ans, comment vous voyez le monde? Sans parler des horreurs qui peuvent se passer aujourd'hui.
Tout dépend déjà du réchauffement climatique.
Déjà.
Comment ça va se passer? Je pense vraiment que c'est avant tout un combat politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va réussir à relever le défi pour voir comment on va s'organiser socialement de la même manière qu'on a dû relever le défi quand on a inventé l'électricité ou quand on a découvert la radioactivité. On est dans ce qu'on appelle une phase de science pré-paradigmatique. Il faut un temps pour que ça se stabilise et tout va dépendre des choix collectifs qu'on fait ensemble. L'important pour moi, c'est de comprendre qu'on n'est pas obligé de subir, qu'on a un degré d'agentivité qu'on doit exercer en tant que société pour voir comment est-ce qu'on gère tout ça.
Merci Albert Moukébert. Donc votre livre Neuromania aux éditions Alary. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.